Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral dans l'émission Quartier Libre. J'ai pour invité, c'est au sujet de la semaine d'information sur la santé mentale et physique qui a démarré déjà la semaine dernière avec une conférence à la médiathèque. C'était vendredi dernier, une rencontre débat, souffrance psychique, un autre regard. Et c'était la médiathèque avec les auteurs de l'ouvrage Psychose, psychiatrie, cause, C-A-U-S-E-S, un plaidoyer pour une autre approche. Et c'est un livre écrit par Chloé et Alan Olivier. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de recevoir les auteurs. On va parler essentiellement avec Chloé, donc auteur de ce livre. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et bonjour Alan.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour par rapport à la sortie de ce livre, mais avant ce livre et la nécessité peut-être de l'écrire, on va refaire un petit tour sur ce qu'on appelle peut-être la psychiatrie, ce terme qui fait encore peur à bon nombre de personnes. Et qu'est-ce qui vous a mené à écrire ce livre ensuite?
Oui, ce qui m'a vraiment poussée à écrire ce livre, c'est de constater que le regard sur les souffrances psychiques est surtout fait de jugements négatifs et que ce jugement négatif accentue les souffrances. Alors que si on changeait ce regard en un regard plus normal, je dirais déjà, mais plus bienveillant, nous pourrions participer à une réelle amélioration qui apporterait un peu de joie à la place de la détresse. Et ce changement de regard est très difficile, il a du mal à s'opérer parce qu'il nécessite obligatoirement une remise en question de chacun d'entre nous, une remise en question du milieu familial, du milieu social, de la société. Il y a des remises en question que nous ne pouvons pas faire et qui créent une grande solitude quand ça n'est pas fait. Il faut savoir que 74% des Français pensent encore que toutes ces souffrances psychiques sont des personnes dangereuses. Or, les statistiques montrent qu'en fait, il y a 0,2% de ces personnes qui souffrent qui peuvent être dangereuses. Et c'est cette association de dangerosité à ces souffrances qui m'apporte beaucoup d'inquiétude, car si l'on en reste avec ces idées-là, avec ces préjugés, eh bien, on aura beau donner des médicaments, on aura beau vouloir essayer de soigner, le soin ne sera pas complet. On a tous besoin les uns des autres, et quand on est malade, on en a encore plus besoin.
Donc ce sont avant tout des personnes en grande souffrance elles-mêmes et dans leur famille et pour la famille aussi, puisque ce n'est pas évident de gérer seul quelqu'un qui est en souffrance psychique, puisque même sans parler de violence, il faut pouvoir faire face. Alors les hôpitaux psychiatriques font un travail, il y a des internements. Alors où est-ce qu'on en est au niveau médical, en psychiatrie? Est-ce qu'on imagine que ça n'existe plus, les internements d'office organisés par la famille?
Oui, ça existe toujours. Ça existe toujours parce que on vit dans une société qui est quand même de plus en plus individualiste. Et quand les médecins vont donner l'étiquette de maladie psychique, il est incroyable de voir comme tout l'entourage va s'éloigner. Et bien souvent, c'est la mère qui reste seule avec ses enfants et avec l'enfant en difficulté. Donc, ce qui accentue évidemment les causes de détresse.
Donc, grande solitude aussi de la part des familles. On va juste rappeler ce qu'est l'UNAFAM et ses valeurs, puisque c'est une association reconnue d'utilité publique. Quel est le rôle, quelles sont les missions de cette association et auprès de qui?
Alors cette association qui est une union nationale des amis et des personnes en souffrance psychique L'UNAFAM essaye de trouver des solutions pour les familles qui sont en difficulté, en les dirigeant déjà à monter des dossiers parce que ils sont pas certains parents ne sont pas suffisamment armés pour seuls quoi. Donc on les dirige déjà au CMP vers les hôpitaux et après auprès de la MDPH pour qu'ils puissent avoir un petit revenu. Donc l'UNAFAM essaye de faire ça et d'essayer de faire évoluer les choses sur Paris en essayant de trouver un peu des avantages pour qu'ils soient un peu plus défendus. Donc c'est fait dans ce sens. Chaque département étant un peu libre, hein, puisqu'il y a un président dans chaque département. Après, ça dépend des personnes, des orientations qu'ils ont envie de faire évoluer. Nous, moi, pour ma part, on essaye de faire changer l'image parce que nous pensons que c'est aussi important le côté humain que le côté médical.
Oui, moi, j'aime bien insister sur le fait que c'est quand même des personnes qui ont subi des chocs émotionnels sans que cela soit pris en compte. Quand on va se faire soigner en psychiatrie, on va soigner sur un plan biologique. Mais tous ces chocs émotionnels qui ont créé ces souffrances, le départ de ces souffrances, n'est pas pris en compte. Et ceci est très important à prendre, à comprendre. Donc, il faut savoir que le cerveau a besoin de bienveillance, a besoin d'amour pour se développer. Que les personnes en situation de détresse vont avoir un cerveau qui va obligatoirement moins se développer. Le cerveau a besoin de sentiments de sécurité. Et tout dans ce sens-là, la société a un rôle déterminant dans la maladie. Toutes ces violences, on ne sort jamais indemne de toutes ces violences. Et il y a un fait qu'il faut remarquer et que je tiens à dire dans ce livre, c'est qu'on ignore complètement, on méconnaît l'expérience, je dirais, un peu de tomber au fond du gouffre. Et que cette expérience de tomber au fond du gouffre sans que personne ne puisse venir vous soutenir. Et il y a un manque énorme de soutien dans nos sociétés. Et la manière de soigner va apporter un réconfort dans le sens que ça va calmer les angoisses avec des médicaments, mais le soutien humain est très très difficile à trouver. Il y a beaucoup de psychiatres maintenant qui le reconnaissent, Boris Cyrulnik, le professeur Christophe André, hein, qui en parle beaucoup, qui disent tous qu'une résilience ne peut pas se faire dans la solitude, et on explique bien que c'est quand on ne peut plus avoir confiance en personne, à aucun être humain, que commence réellement cette problématique, cette souffrance. Et toute la difficulté, elle est de pouvoir recréer du lien.
Oui. Donc, ces personnes ont besoin d'aide, bien évidemment. Il existe des centres de jour qui permettent de créer, d'avoir des satisfactions, de création, parce que c'est important aussi, je crois, pour tout être humain, d'arriver à confectionner quelque chose ou à porter...
C'est un point de départ, c'est essentiel. Mmh. Essentiel. La création va pouvoir permettre de s'exprimer, de se sentir valorisé. Bien sûr, ce qui est le plus souhaitable, c'est que ce puisse être montré aux yeux, à l'extérieur, dans la société, au même titre que d'autres personnes qui sont des artistes, alors que ça se fait de plus en plus. Hein, de plus en plus. Il faut pouvoir qu'il y ait une intégration, je dirais, à la limite, où on ne sait pas qui a fait quoi. Et ça serait l'idéal. Mais la création est quelque chose de primordial, qui va pouvoir justement leur permettre de sortir de cet enfermement interne qui s'est créé.
Alors, je ne sais pas si vous étiez présente, c'est peut-être pas... Enfin, si, ça a rapport, ça a à voir quand même. Il y a eu un concert de Percut Jam, un groupe constitué essentiellement d'autistes en présence d'éducateurs musiciens aussi. Mais ce sont vraiment des artistes à part entière. Ils vont à l'Olympia le 4 avril. Et ça aussi, c'est incroyable de pouvoir exprimer tout ce qu'il y a dedans et des compétences en dehors du regard d'être quelqu'un d'à part.
Mais justement, c'est ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, on ne connaît pas l'immensité des connaissances qu'ils ont puisées dans ces maladies, dans ces détresses, parce qu'ils sont puisés, enfin, quand ils arrivent à pouvoir exprimer, on voit que le fait d'être passé par des périodes tellement difficiles leur a permis d'agrandir encore leur sensibilité. Donc, ils ont leur part, ils peuvent apporter beaucoup, ils peuvent nous apporter beaucoup, et beaucoup de personnes qui les contactent, qui les connaissent mieux, disent combien ça les a transformés elles-mêmes. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous apporter à nous-mêmes plus d'humanité et de sensibilité. Oui, on est allé il n'y a pas longtemps, c'était samedi soir, la troupe sur Digne-les-Bains, c'était au centre René Char. C'était vraiment une vraie troupe d'artistes, et avec humour, avec une grande sensibilité, ils ont pu à la fois faire rire et puis apporter des émotions et quelque chose de très profond. C'était vraiment très bien. Ce qui reste toujours, c'est cette étiquette où on va dire ce sont des personnes handicapées. Il serait très bien, comme ça se fait dans d'autres pays où nous sommes allés, on ne sait pas qui est qui. Les étiquettes, c'est bon pour se faire soigner. Personne ne va dire s'il a, je ne sais pas moi, quel que soit nos... On a tous des médicaments à prendre pour tel ou tel petit problème. On ne va pas le dire comme ça. Excusez-moi, mais j'ai mal au foie. Excusez-moi, j'ai un diabète. Mm-hmm. Et là, c'est ce qu'on met en avant dans ces maladies, ce qui est dommage. Mm-hmm. Et c'est pour ça que... Changer de regard, c'est vraiment montrer le côté positif qu'ils peuvent nous apporter. Et c'est extraordinaire quand c'est comme ça.
Alors vous-même, vous avez pratiqué l'art-thérapie.
Oui.
C'est capital pour tout être humain. On va pas dire même quelqu'un qui n'a pas de problème. C'est quelque chose
c'est
de... pendant de nombreuses années, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre? Et à qui il s'adresse surtout?
Alors, ce livre va s'adresser, bien sûr, à tous ceux qui sont touchés par ces de près ou de loin, dans la famille ou dans l'entourage, par des personnes qui ont pu donc être soignées en hôpital psychiatrique. Et ce livre, ce sont des témoignages, des réflexions que j'ai pu retirer de recherches, parce que j'ai pu faire des formations avec des psychiatres québécois, australiens, en Belgique. Bon, il y a eu un travail de recherche quand même à la base. Après, bien sûr qu'en art-thérapie, j'ai pu voir toute cette compétence, toute cette richesse qu'il y a. Et puis aussi, j'ai vu évoluer moi-même ma propre peur, ma propre culpabilité par rapport à ces situations. Et je comprends qu'en changeant de regard, en changeant d'attitude, ce qui n'est pas évident, hein, parce que c'est quelque chose qui est à faire finalement de tous les instants, mais... on constate comme c'est vraiment, ça passe, c'est un changement pratiquement immédiat qui va apporter un tel bien-être à l'autre, de se sentir reconnu en tant que personne. Parce que ces étiquettes de maladies psychiques ont un côté dévalorisant et qui fait peur, il faut le reconnaître.
Et qui crée un isolement supplémentaire.
Un isolement supplémentaire. Et l'isolement supplémentaire accentue la maladie, accentue les problématiques. L'isolement accentue les problématiques et crée du lien très difficile. par la création, par l'art, par la recherche, par le théâtre, enfin tout ce qui est ces domaines-là, ça permet une resocialisation, mais ensuite, il se peut très bien que ces personnes puissent retrouver à leur mesure une adaptation plus, je dirais, plus... J'ose pas dire plus normal parce que c'est idiot. On fait toujours c'est normal, c'est pas normal, c'est normal, c'est pas normal. Et c'est vrai que cette manière de réfléchir et de juger les choses, elle est aussi à changer. Si on regarde bien, on a tous nous aussi nos moments de tristesse, nos moments où on va avoir des petits moments de déprime et comment on peut s'en sortir. Et ce qui est très positif, c'est de pouvoir changer de regard.
Alors vous parlez de culpabilité, ça c'est quelque chose que tout le monde connaît bien, hein, on en a toujours, et d'autant plus dans la famille, souvent, on veut toujours essayer de faire au mieux, et quelquefois on se trompe, on peut toujours avoir de la culpabilité. Quelle est la culpabilité que peut avoir la famille, justement, d'avoir est-ce qu'on peut se sentir responsable d'un enfant qui...
Alors il y a deux choses que je verrais, hein. C'est-à-dire que La culpabilité, elle est souvent là. Or, il faut bien distinguer la culpabilité de la responsabilité. Il y aura toujours une responsabilité de toute façon. Mais la vie n'est pas facile. Il y a bien des situations où la famille ne peut pas faire autrement. Cependant, ça engendre des conséquences. Mais par exemple, un jeune qui est violé par son oncle, et pour la famille ne va pas prendre ça en considération. Va dire c'est rien, retourne chaque année dans la famille où il va revoir l'oncle qui l'a violé. Ça lui fait un double choc, ça fait un choc où il a subi cette souffrance, une humiliation, et ensuite il ne peut pas en parler, la famille ne veut pas en parler parce que c'est vécu comme une honte. Il y a cette culpabilité qui fait que on vit à la fois les chocs, les souffrances comme une honte. On ne peut pas en parler. Et en plus, quand la personne, on a comme solution que de la faire soigner en hôpital psychiatrique, c'est une seconde honte qui se mène. Parce que quand vous dites « je suis allée à l'hôpital psychiatrique » ou « j'ai un enfant à l'hôpital psychiatrique », vous verrez, vous n'aurez plus beaucoup de monde autour de vous. C'est des situations qui sont très difficiles à vivre. Et c'est bien pour ça toujours que j'insiste que le regard est à changer. Tout le monde peut avoir un moment où il peut aller en hôpital psychiatrique, mais c'est des étiquettes qui, elles-mêmes, portent la honte. Il y a des pays qui ont enlevé l'étiquette de schizophrénie, il y a des pays qui vont parler de souffrance, c'est parce que c'est une souffrance. Et le fait de pouvoir parler, de pouvoir exprimer la souffrance, et on peut passer à autre chose, mais pour ça... Il faut pouvoir trouver les écoutes bienveillantes. Et c'est ce que font, comme vous disiez tout à l'heure, vous parliez des hôpitaux de jour. Il faut reconnaître le travail des infirmiers, des infirmières. Et actuellement, il y a des centres de jour qui ont même mis en place des médiateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est très bénéfique. Ce sont des personnes qui vont faire... si je puis dire, le pont.
L'intermédiaire, oui.
L'intermédiaire entre le système psychiatrique et la famille.
Oui, parce que c'est forcément tout est lié.
Tout est lié.
Et si on place quelqu'un de la famille à l'hôpital psychiatrique, forcément, quand il revient, soit il y a toujours un travail qui doit se faire entre la famille et les infirmiers et une médiation. S'il n'y a pas de communication, c'est voué à l'échec.
Oui, et donc jusqu'à présent, c'est ce qui était difficile parce que quelque part, le système psychiatrique comprend bien qu'il y a une part d'origine familiale, environnementale. Mais ce dont on n'est pas encore en réelle capacité de faire, c'est justement de pouvoir, comme vous dites, travailler avec les familles ou avoir ce lien avec les familles. Et jusqu'à présent, la famille, j'ose pas dire est rejetée, j'aimerais dire a été rejetée, parce que dans certains cas, elle est quand même, mais elle est encore beaucoup rejetée. Moi, je connais plein d'exemples où les femmes ne peuvent pas avoir contact du tout avec leur enfant qui est à l'hôpital psychiatrique, c'est impossible. Mmh. À partir du moment où, bon, ce qu'on appelle enfant, donc est devenu un adulte, hein, mais à partir de 18 ans, on est considéré comme adulte. À partir de 18 ans, quand vous êtes la mère, si vous voulez avoir des nouvelles de votre fils ou de votre fille, on va vous dire il est adulte. La souffrance, là, elle n'est pas prise en considération. C'est là qu'il y a des efforts à faire et des compréhensions à avoir où, justement, on a tous intérêt à travailler un peu les uns avec les autres. Et ça commence à se faire dans certaines régions qui ont été faire des formations, justement, il faut bien le reconnaître, à l'étranger. Hein. Mais en France, on accuse quand même 20 ans de retard en psychiatrie.
Alors, même s'il manque souvent de personnel, c'est souvent le cas, on a quand même évolué par rapport à il y a de nombreuses années où il y a eu beaucoup de médicaments, comment on appelle ça, ils étaient, il y avait la facilité, c'était d'absorber les médicaments qui en suquaient complètement, ou pour s'en parler de la lobotomie.
Et voilà, il y avait la lobotomie, il y avait les électrochocs.
Voilà, ça n'existe plus, dites-moi, rassurez-moi.
Je vais vous rassurer, mais il y a encore beaucoup de manifestations qui ont lieu contre les contentions, c'est-à-dire qu'ils sont tellement attachés hein, qu'ils en gardent les marques.
Ah,
moi,
oui.
J'en ai vu qu'il y avait... Voilà. Après, bon, on va pas, personne n'est parfait, ils vont faire de leur mieux. Une personne jeune en crise, quand il est adolescent, en pleine force comme ça, on peut comprendre que pour un temps donné, il y ait ce recours. Mmh. Cependant, même pour les médicaments, ce qui est vraiment aussi à essayer d'améliorer, c'est que En mettant les étiquettes, quelque part, on les condamne à vie. Alors qu'en fait, c'est quand même des moments de crise qui peuvent être soignés au moment de crise. Après, on va mettre, par exemple, une médication, mais pas aussi forte que pendant la crise. Or, les traitements sont vraiment des traitements qui les affaiblissent, qui leur donnent des problèmes de santé physique. Et là aussi, c'est un autre problème où on n'a pas encore, on n'ose pas encore évoluer. Mais il y a des psychiatres qui savent très bien que c'est par la création, par une bonne intégration, qu'ils arriveront à diminuer la médicamentation. Et il y en a qui le mettent en place avec de bons résultats.
Parce que, enfin, sans vouloir prêcher contre systématiquement la médicalisation, mais on sait très bien qu'il y a des médicaments qui sont néfastes et qui peuvent entraîner des troubles peut-être encore plus graves qu'une crise.
Il est prouvé,
une dépendance aussi.
Il est prouvé que ça raccourcit leur vie de 15 à 20 ans. C'est-à-dire qu'eux, ils savent, nous, on côtoie des jeunes qui ont cette conscience et qui nous disent de toute façon, je vais mourir. Et je vais mourir avant les autres. Et quand on les annonce comme schizophrènes et qui sont une grave maladie, on a entendu parler des psychiatres qui annonçaient ça. Et qu'après, on leur demande de faire un projet de vie. Il dit à quoi ça sert que je fasse un projet de vie parce que de toute façon, je vais mourir. Et ils n'ont, non seulement ils sont handicapés par les médicaments, mais en plus, ils perdent le moral.
C'est un cercle vicieux.
Quoi. Donc forcément, ils plongent. Et s'il y en a qui ont conscience de ça et qui sont beaucoup plus affectifs que les autres, ils sont capables de d'arriver à se supprimer parce qu'ils embêtent leurs parents, ils embêtent l'entourage, ils sont regardés différemment et ça peut les gêner, quoi. Et ils peuvent arriver à quelque chose d'extrême, qui est très dangereux. Donc c'est important de prendre conscience de ça, non seulement les familles, mais aussi le système psychiatrique qui devrait se remettre en cause et accepter cette évolution. Le système psychiatrique français est très fort, hein, c'est très difficile. Donc, on a essayé de monter des congrès dans des villes où on a eu des vétos parce que les psychiatres de la ville nous empêchaient de faire ce congrès, quoi. Mm-hmm. Ça, on l'a vécu, on n'invente pas. Alors, bien sûr, c'était en 2003 ou 2004, ça a évolué, mais quand même, c'est assez difficile d'aller faire bouger, faire prendre conscience de ça.
Alors, parce qu'il y a tellement de méthodes parallèles, enfin, je veux dire, de mieux être, de mieux vivre, ne serait-ce que les contacts avec la nature, indispensables, parce que plus on est enfermé dans une cellule ou dans un hôpital, l'enfermement, enfin voilà, nous coupe des racines. Et la nature, l'essence, ont besoin d'être réveillés. Et il y a vraiment d'autres moyens de passer par retrouver le sens, l'odorat, l'ouïe, enfin, un travail, j'imagine.
Il y a un psychiatre, il est intervenu d'ailleurs lors des santé mentale, là. C'est le professeur Christophe André, qui va bien dans ce sens-là, hein. Le contact avec la nature pour pouvoir se relier. Mm-hmm. Se relier. Il conseille aussi de pouvoir se relier à toutes les personnes à qui on a pu avoir confiance avant de tomber comme ça dans cette
déchéance, oui.
Dans ces troubles, mm-hmm, qui sont dramatiques. C'est des situations justement dramatiques qui pourrait, il suffit de peu de choses parfois quand même, un petit peu tous les jours. On se rend compte que un petit bonjour, ou c'est pour eux parfois extraordinaire d'avoir un bonjour dans une journée. Mmh. Et le risque, comme l'a dit Alain, c'est que bon, bien souvent, c'est leur seule issue est le suicide. Bon, parce qu'il n'y a pas suffisamment de compréhension autour. On a beaucoup à apprendre de ces troubles et ne pas en avoir peur pour pouvoir les aider. Ne pas en avoir peur. On le voit tellement. Ah, mais moi, je ne suis pas fou. Moi, c'est le rejet.
Donc, souvent, les causes viennent de chocs plutôt affectifs et familiaux que dus à la crise de manque de travail ou de ne pas pouvoir faire des études. C'est plutôt bien avant encore.
Ce sont des personnes excessivement qui ont déjà une sensibilité et une nature plus sensible. Hein. Mm-hmm. Et donc, qui vont être plus facilement, peut-être, pouvoir subir des chocs, hein, parce que notre société est quand même, depuis longtemps, basée sur des rapports de violence. Et là aussi, si on pouvait déjà, dès l'école, pouvoir intégrer, ça se fait, j'ai vu que ça se faisait, c'est-à-dire apprendre aux petits garçons le respect des petites filles, ça se fait. Il y a toute une éducation qui est à reprendre au niveau de la violence, pour apprendre la non-violence, à respecter l'autre. Et donc, ces chocs affectifs, oui, ce sont des chocs affectifs. Après, selon le milieu familial, oui, bien souvent, hein, dans l'enfance, ça peut être déjà pendant la grossesse. On parlait tout à l'heure des femmes battues. Il faut bien en parler puisque ça existe et qu'hélas, c'est une réalité. Pendant la grossesse, le fœtus s'est reconnu scientifiquement qu'il ressentira toute cette souffrance et il la portera en lui. Donc parfois, ils peuvent être porteurs de souffrances de la famille qu'ils vont prendre aussi sur eux. C'est pour ça que c'est très difficile de pouvoir trouver les causes. Elles sont multiples, les causes. Mais ce sont des chocs émotionnels très forts qui sont parfois tellement forts qu'ils ne peuvent pas en parler. parce que l'entourage, on ne pourrait pas entendre. Non, ce n'est pas par une mauvaise volonté, mais parce que c'est impensable. Il y a Annick de Souzenel qui en parle très bien et qui dit que on tombe donc en effet parfois. Elle explique comment ça se passe, quoi. Et
c'est pas celle qui a fait Danse avec les loups, femme qui danse.
C'est possible. Elle explique que, voyez, on est dans une société aussi où la mort, bon, bien sûr que ça a évolué, hein, on fait des progrès, bon, on voit bien qu'il y a des cellules, on va mettre des cellules de psychologie quand il y a des grands chocs, quand il y a des deuils. Mais il y a des personnes sensibles qui vont vivre des abandons, qui vont vivre des deuils, qui vont vivre des morts. Et c'est comme si d'un coup, le monde dans lequel ils vivaient va disparaître, quoi. Et dans ces situations, bien sûr, dramatiques, parfois, ils n'ont aucun recours que de recourir à quelque chose qui est un peu intérieur à eux. C'est pour ça que ça peut être des personnages qui vont se créer, des voix, parce que ce sera le seul recours. Et nous, on va le voir comme un problème, mais pour eux, c'est leur survie. C'est un instinct de survie qui a lieu dans des moments de crise. Et elle dit bien, pour survivre lorsque la terre tremble, lorsque le coup de gong éclate, l'enfant est mis en contact avec ses monstres et il n'a plus que cette solution. Et c'est à ce moment-là que commence ce drame en lui-même. Il ne peut plus compter sur personne. Il ne peut, quand il se dit « je ne peux plus rien attendre de personne ».
Alors, est-ce que quelqu'un qui a eu un drame familial, comme l'inceste dans son enfance, qui ne peut, parce que c'est tabou, parce que pendant 50 ans ou plus, ou des fois des générations, la chose n'a pas pu être dite dans la famille, simplement le fait d'en parler à un psychologue, enfin un psychiatre, un psychothérapeute qui va aider la personne à... on n'a pas forcément besoin d'exprimer au bourreau ou à la famille qui a permis que ça reste un secret pour s'en débarrasser.
C'est exact. Il suffit de pouvoir en parler. C'est pour ça que la création a toujours été extraordinaire. Tous les peintres, s'ils n'avaient pas pu exprimer par la peinture, ils auraient été enfermé. D'ailleurs, Cézanne était traité de fou à Aix-en-Provence. Van Gogh, bien sûr, était traité de fou. Mais quelque part, ils ont pu exprimer par la peinture. Et c'est qu'après leur mort qu'on les a reconnus comme étant, en effet, des personnes qui apportaient une sensibilité qu'on n'avait pas vue sur le moment. Picasso, le drame de la guerre d'Espagne, il l'a retraduit en peinture. Et donc, si on peut exprimer d'une manière ou d'une autre, c'est certain que ça peut permettre de ne pas garder ça à l'intérieur de soi. En quelque sorte, ça ne devient pas un poison qui nous rend malade.
La médecine va s'appuyer que c'est en donnant la solution de la biologie, c'est-à-dire on va dire c'est biologique, c'est-à-dire que il faut le soigner avec un traitement, ce qu'il n'arrive pas encore à admettre, c'est que une fois qu'on a compris que c'était biologique, il y a autre chose à faire. L'approche de la médecine devrait arriver à comprendre que il peut y avoir un terrain. Il y en a qui ont un terrain, je ne sais pas, ils ont un problème cardiaque, là, ils ont un problème circulatoire. Si quelqu'un qui a un problème circulatoire se met à boire et à manger du gibier tout le temps, automatiquement, ça va exploser. Si la personne a un terrain, une fragilité biologique, une fragilité, une hypersensibilité, je veux dire, si en plus il est écarté, maltraité dans une société qui met une pression énorme. À un moment donné, ça va exploser. On pousse les enfants à devenir tous médecins, avocats. Ça leur met une pression. Alors, on dit, oui, mais ils ont la possibilité. Oui, mais si par malheur il a cette fragilité, c'est sûr qu'à l'adolescence, ça explose, quoi. Donc, peut-être que c'est biologique. Mais la société doit prendre en compte aussi le traitement qu'elle met en place sur nos adolescents et sur nos enfants, sur les familles. Les familles sont obligées d'aller, les deux parents d'aller travailler, ils ne peuvent plus s'occuper des enfants. S'ils veulent payer quelqu'un, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc tout ça est à revoir, ça doit être collectif, quoi. C'est trop facile de dire « c'est biologique ». Il est malade, il est fou, on lui donne des médicaments et plus personne n'en parle. Je veux dire, ça peut avoir... Alors maintenant, ils disent faut les voir plus tôt. Il faut commencer à
faut
chercher...
Déceler, voilà, précocement.
Précocement. Bon, à un moment donné, il faut arrêter ça.
Toutes les remarques négatives ne construisent rien. Et donc les écoles qui vont encourager, qui vont plutôt que de toujours jeter des regards négatifs, bon t'es nul, tout ça. C'est très important. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, il y a des expériences qui sont faites dans différents pays où ils font des écoles où il y a beaucoup de... Bon, c'est un mot qu'on emploie, mais c'est beaucoup d'écoute, hein, beaucoup de respect du rythme de l'enfant. Il y a des changements incroyables dans les résultats d'apprentissage.
Oui, il y a beaucoup à revoir en France sur nos façons d'apprendre et d'enseigner.
Oui, tout à fait. Oui.
D'ailleurs, la plupart des enseignants sont dépassés puisqu'ils n'arrivent plus à capter l'attention des enfants, ils n'arrivent plus à suivre, à être intéressés par quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment tout à revoir dans le système et des horaires surchargés. Ces enfants qui sont, depuis qu'ils sont réveillés, pressés parce qu'il faut vite aller.
C'est ça.
Parce que papa, maman vont être en retard. Et...
Trop stressés et trop de pression qu'on ne peut pas maîtriser. Pour ça que le docteur Christophe André, il insiste sur les temps de méditation, des temps de calme. Et tout ça aussi, ça serait bien de pouvoir les intégrer donc dans les écoles pour pouvoir le mettre comme une habitude de vie. Et on voit, vous parliez tout à l'heure, ça peut arriver donc à toutes les personnes en état de stress extrême. C'est évident que on voit sa vie basculer à la suite de ça, puisqu'on ne peut, le cerveau ne peut pas suivre, on ne peut plus. Se maîtriser. Et après, c'est un cercle qui s'installe.
Alors, pour revenir à votre livre, on y retrouve des témoignages.
Oui.
On peut y trouver des solutions, des aides.
Donc, ce livre est parti de l'idée que déjà prendre conscience de toute cette autre manière de concevoir cette problématique, c'est déjà un premier pas important, et je dirais même essentiel, parce qu'après le reste va presque émaner de lui-même, va se faire de lui-même, à partir du moment où on va plus vouloir avoir cette volonté de vouloir maîtriser complètement celui qu'on va juger malade. Parce que à partir du moment où il est malade, il a plus de liberté du tout. Hein. Mm-hmm. Tout le monde va vouloir dire, faut que tu fasses comme ça, tu peux pas dire si tu veux pas. Et quelque part, il y a une notion de la vie qui est changée. Quand on prend conscience de ces différentes causes, on voit autrement et ça libère. Et du coup, on peut mieux vivre ensemble. Ça ne donnera peut-être pas obligatoirement, on ne va pas changer nos personnalités, ni la personnalité de l'autre, mais simplement, on va pouvoir mieux vivre ensemble. Le fait que les personnes le ressentent, ça va leur permettre de pouvoir faire des pas pour trouver leur chemin. C'est pas à nous de trouver leur chemin, mais elles arrivent à retrouver leur chemin comme ça, avec des soutiens, des personnes suffisamment bienveillantes qui sont là. Il suffit de pouvoir... Ça, c'est ça qui n'est pas facile, parce qu'on donne un tel sens économique à toutes ces manières de soigner, si je puis dire, hein, donc, que le côté humain est enlevé. Et donc, si les week-ends, s'il y avait des personnes qui peuvent répondre quand ils sont en état de détresse, c'est déjà pas mal, ça serait bien. C'est de l'humanité qu'il faut restaurer, mais je l'écris surtout pour des prises de conscience. Et ces prises de conscience font un chemin de transformation. Après, bien sûr, il y a encore à avancer et à chercher et à proposer d'autres solutions. Ça commence à se faire quand on voit justement de proposer de la création... Comme je connais un psychiatre qui le fait, il propose la création à la place des médicaments. Et je dis bravo, pourvu qu'il y en ait de plus en plus qui puissent aller dans ce sens-là.
Oui, on demande aussi dans le livre une remise en cause de la psychiatrie, qui puisse eux aussi évoluer. Donc il est aussi pour les soignants de suivre le parcours d'une personne qui a souffert de la famille, qui a subi des conséquences et qui, suite à ça, a pu se remettre en question suite au choc de son enfant et évoluer, à trouver une autre solution que de voir son enfant abruti par des médicaments, ne plus pouvoir bouger en étant resté assis. Et ça montre que lorsqu'il y a eu le changement, il y a eu une amélioration de la personne qui souffrait. Donc, on demande aux soignants de se remettre en question, de ne pas se laisser influencer par les logos pharmaceutiques qui, eux, ils ont tout intérêt à vendre le plus de médicaments possible parce que c'est leur gagne-pain. Mais souvent, ils se laissent embarquer par ça, quoi. Donc, si les soignants prennent conscience de ça, il va y avoir une amélioration. S'ils restent enfermés dans ce lobby des laboratoires, c'est sûr qu'on ne pourra pas évoluer, quoi.
Donc, c'est quand même une solution de facilité, exactement. De rapidité. Oui. Enfin, je ne sais pas quel est je ne connais pas suffisamment le domaine le travail d'un psychiatre, mais si ça se borne à faire des ordonnances de médicaments qui en suquent, effectivement, c'est pas suffisant et ça va pas sortir les personnes de l'engrenage et puis de les retrouver hospitalisées régulièrement. Parce qu'en fait, c'est ça, si la personne elle va de plus en plus mal, elle est internée un temps, mais elle peut pas être internée à vie. Ça coûte trop cher déjà, et puis c'est pas la solution.
Nous, on a vu des familles, des mères qui, leur fils va au centre de jour, ils vont chercher leurs médicaments, ils repartent, et ils voient une fois tous les 3 mois ou les 5 mois le psychiatre. Et donc c'est juste pour aller chercher leur traitement. Je veux dire, ça, on peut pas s'en sortir comme ça, quoi. C'est pas possible.
Oui, ce livre, c'est avant tout un peu comme un SOS pour qu'on se sente tous responsables. C'est un témoignage pour... où j'ai voulu vraiment dire que non, ce n'est pas que biologique, ce n'est pas quelque chose qui est comme ça et pas autrement. C'est pas une maladie comme les autres quand on attrape la grippe. Et qu'il est quand même important, justement, de pouvoir réagir en tant qu'adulte responsable pour pouvoir... vraiment apporter une amélioration, sinon c'est vraiment un drame. Beaucoup trop de gens en fait ne voient plus de solution.
Sans compter les histoires aussi Enfin, c'est l'engrenage aussi, les personnes qui ont une affection pour quelqu'un d'autre et qui vont avoir aussi une relation amoureuse. S'il y a un bébé qui se conçoit aussi dans des conditions de, où chacun essaye de sauver l'autre ou de se secourir, c'est aussi tout un souci supplémentaire pour s'en sortir.
Ça engendre beaucoup de choses.
Dans le milieu hospitalier, quoi, hein, parce que il y a des gens qui se rencontrent aussi en étant internés.
Il y a des garçons qui ne font pas le pas vers la fille parce que il n'y a pas d'avenir. Ils disent ça sert à rien, pour faire quoi? Ça casse un tas de choses, quoi.
Dans l'histoire des couples qui peuvent se fermer en psychiatrie, nous avons toujours nos préjugés. C'est là où on a toujours nos préjugés. Après tout, ça peut les sauver, hein. Mm-hmm. Parce que de toute façon, c'est pas facile de parler de ce mot d'amour, mm-hmm. mais de toute façon, c'est ce qui peut sauver. C'est dans ces problématiques qui sont donc d'origine de souffrance affective. Et moi, je dis, c'est tout ce que je leur souhaite, hein, de mm-hmm. pouvoir vivre en couple, c'est tout ce que je leur souhaite.
On l'a vu pour John Nash, hein, qui, grâce à l'amour de sa femme, il n'a pas été enfermé, il s'en est sorti, et puis il a eu un prix Nobel. Et il a pu s'habituer, il avait des visions, il a pu maîtriser ses visions et vivre normalement avec l'amour de sa femme. Donc c'est possible.
Il y a un petit téléphone qui se balade. qu'est-ce qu'on a oublié de dire sur qu'est-ce que vous avez envie de dire? Combien d'années de travail pour faire ce livre? Est-ce que ça a été difficile de recueillir des témoignages? Vous avez rencontré donc des psychiatres de différents pays?
Alors, ce livre, il parle beaucoup de mon expérience personnelle, oui. de mes rencontres. Et donc, c'est le fruit de plusieurs années, mais je l'ai quand même écrit assez rapidement. Je l'ai écrit rapidement. Enfin,
2 ans.
On va dire, s'il faut donner un chiffre, je dirais 2 ans.
2 ans.
Donc un livre qui a déjà circulé auprès du personnel hospitalier. Est-ce que vous avez eu des retours plutôt positifs? Est-ce que certaines personnes vous ont attaqué aussi? Non.
Non, on n'a pas
eu. Plutôt bien reçu.
Voilà, ça a été bien reçu. Pas mal. Les personnes que nous avons rencontrées ont dit que ça leur avait apporté quelques ouvertures, des compréhensions. On a vu une infirmière qui l'a mis dans son. Dans son centre, que ça leur a apporté beaucoup de réconfort et qui s'en sert, qui en a parlé pour celle qu'on connaît, qui en a parlé à son responsable, à son psychiatre. Donc on voit que soit des personnes qui n'ont pas de ce problème, mais qui sont sensibilisées aux souffrances en général, l'ont lu, ça leur a fait prendre conscience sur cette problématique. Quoi, voilà.
Après, j'en ai écrit un autre parce que c'est un premier pas, hein, puisque mm-hmm. le but était justement essentiellement de pouvoir dire non, il n'y a pas que les médicaments et c'est pas que biologique. On ne va pas dire une fois pour toutes c'est comme ça et non, il y a vraiment à se sentir concerné par nos manières d'être, ce que depuis des générations et des générations, hein, on fonctionne sur des rapports de violence, d'autorité, un peu un peu irrespectueuses parfois. Alors bien sûr, après, on va pas souhaiter un monde de bisounours, mais bien sûr que c'est à prendre en compte. Et c'est pour le bien de tous. Hein. Quand je vois que à l'Élysée, il y a maintenant un jeune qui sert à manger au président de la République, un jeune trisomique qui va servir le président de la République. Moi, pendant longtemps, je me suis occupée d'enfants trisomiques. Et ils étaient cachés, on ne les sortait pas, ils ne sortaient pas de la famille, c'était aussi la honte. Et donc là, on a évolué, donc on est capable d'évoluer. Si on ne réagit pas comme il faut, c'est par méconnaissance. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir faire passer d'autres messages que ceux qui sont véhiculés.
Ben, je vous remercie de cet éclairage sur la psychiatrie et sur les dérives. On connaît peut-être trop d'abus au niveau des médicaments. Il y a d'autres méthodes, il y a d'autres façons. Et puis, à chacun de changer son regard sur l'autre soi-disant malade, voilà, puisque chacun a sa propre dose de sensibilité. Et on sait très bien que quand on est hyper émotif, hyper sensible, la vie peut être très cruelle. Et donc voilà, c'est important de plus avoir peur de gens qui sont peut-être pas tout à fait comme tout le monde au niveau réactionnel et émotivité. Et voilà, il faut apprendre encore à vivre ensemble. Alors on va rappeler le titre de votre livre. Je vous laisse le faire vous-même.
Alors psychose comme les causes, psychiatrie, plaidoyer pour une autre approche, aux éditions Amalthée.
Et puis, ben, je vous souhaite de longue vie à ce livre et qu'il soit lu par le plus grand nombre. Et puis, vous allez suivre vous-même encore. Donc, vous êtes en train d'écrire un second livre qui sera comme une suite ou...
Oui, on peut le considérer comme une suite, oui.
Et vous allez continuer à je pense qu'il y a d'autres choses peut-être à voir ou à entendre dans la semaine de santé mentale et physique. Vous allez vous tenir informé.
Voilà, on continue à participer.
Oui.
Donc on n'est plus impliqué directement, mais on participe toujours par notre présence.
Bien, merci.
Merci
et
aussi.
Et puis,
à vous.
N'hésitez pas à venir quand vous le voulez, nous reparler, par exemple, de Luna Femme, et puis de votre prochain livre quand il sera prêt.
Oui, volontiers.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.